Scrivens O, Scrivens A.
Cette émission se propose d'explorer les mystères de la création littéraire et poétique. Jean-Pierre, JP ou encore Téminique, de l'aisance avec les mots depuis l'enfance, a commencé le slam en 1999. Chez lui, nous avons évoqué l'art du slam, ce qu'il est, ce qu'il représente pour lui, ce qu'il véhicule. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Ou dois-je dire JP ? Merci de m'accorder cette interview. Alors JP, je crois que c'est un pseudo.
Ben, c'est les initiales de mon prénom, figure-toi. C'est JP, c'est Jean-Pierre. Mais comme la sonorité de la lettre P, c'est la P. Et que je suis épris de cette noble vibration. Donc voilà, j'ai dit JP, c'est bien de signer comme ça, tu vois.
Alors, J-P-P-A-I-X.
C'est ça. C'est mon chemin.
Et j'ai pu noter que sur la scène slam, nombreux étaient ceux qui avaient un pseudo. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ?
Alors déjà, je vais... Puisqu'on parle des pseudos, mon pseudo sur la scène slam depuis maintenant peut-être 20 ans, c'est Téminique, c'est pas JP. Donc on me présente en tant que Téminique, c'est un blaze, comme on dit, que j'ai choisi par rapport à l'importance du mot. Ici dans les cités, dans la mixité, le Téminique c'est la parole, c'est l'art de... C'est l'art d'emboucaner l'autre par la parole, c'est l'art de manipuler la parole par excellence pour obtenir des... Voilà. Donc ça se plaçait dans la phrase comme ça, lui fait attention, il est plein de téminique, ça veut dire il est plein d'amour, il va te faire des amours. Voilà.
Pourquoi ce choix des pseudos en général par les slameurs ?
Je sais pas, peut-être pour éviter les plaintes ou... pour garder une certaine forme d'anonymat par rapport à des propos mal assumés, peut-être. Non, je plaisante, mais... Non, je sais pas, je pense que c'est une façon d'avoir un drapeau, un étendard, donc souvent les poétesses et les poètes choisissent des petits noms qui les dépeignent un petit peu, voilà.
Et depuis quand écris-tu ? Et puis depuis quand déclames-tu ? Alors, l'histoire avec l'écriture.
L'écriture, c'est marrant. Bon, j'ai commencé par faire des petits mots pour les copains, les copines, les anniversaires, parce que j'aimais bien la rime et j'aimais bien, voilà. J'avais la rime facile, donc je faisais des petits mots. Et... Puis ensuite, j'ai été encouragé à faire un atelier d'écriture par une amie parisienne qui m'a offert donc un atelier d'écriture à la Belle de Mai, à la Friche, il y a une bonne vingtaine d'années de ça. C'était des rappeurs qui organisaient ça. Et là, j'ai écrit mon premier slam, vraiment mon premier texte, à cet atelier d'écriture-là. Et les rappeurs qui étaient en train de produire leur CD, ils ont intégré le slam direct sur leur CD, tu vois. Ça faisait une petite aventure qui a été un boost pour me dire, ben voilà, peut-être ça peut être sympa ce que j'écris alors. Et j'ai commencé comme ça, à écrire.
Est-ce que ça veut dire que ton slam était mis en musique directement ?
Non, ils l'ont gardé slamé. C'était une interlude dans leur album, une interlude, parce que c'était un album rap. C'était « Mets les gosses à l'abri » d'Aliman Staff.
Et pourquoi le choix de l'écriture comme moyen d'expression ?
Mon vrai moyen d'expression, c'est j'ai envie de dire, il est plus dans l'oratoire que dans l'écriture. Mais c'est vrai que l'écriture, ça doit venir peut-être... je sais pas, un souvenir de l'école, vraiment, qui a marqué ma vie. Dans une situation désagréable, où j'avais fauté, j'avais fait une connerie, tu vois, en primaire. Et j'ai pu m'en sortir avec une entourloupe verbale du style « Monsieur le directeur, pourrais-je savoir la raison pour laquelle vous m'avez appelé ?» Et là, ça a stupéfié, je m'en souviens très bien. Tous les profs qui étaient là en cours de récréation qui ont entendu ça, moi, je me cagais dessus. Donc, j'avais sorti ça d'instinct comme ça. Et en fin de compte, c'était pour un motif anodin qu'il m'avait appelé. Et je me suis rendu compte que cette phrase-là, elle avait créé chez les adultes une sorte d'admiration. Parce qu'il y avait juste une inversion verbe-sujet qui ne correspondait pas à mon âge. Voilà, qu'on n'avait pas encore... Donc c'était intéressant, mais ça m'avait énormément marqué. Et là, j'avais compris la puissance de la parole et de la façon dont tu agences les mots, donc aussi de l'écriture, la façon que la façon d'agencer les mots avait une importance assez importante.
Et le travail avec les rimes, les assonances, c'est venu à partir de cet atelier d'écriture ou avant tu avais cette appétence pour la poésie?
Ben, au-delà de ça, tu vois, je pense que c'est ancré dans l'esprit marseillais, dans la mentalité marseillaise, tu vois. Parce qu'il y a tellement de culture brassée ici depuis toujours, tu vois. Et chacun, il y mène un petit peu son humour, son amour des mots, peu importe le pays dans lequel ils viennent. Et depuis tout petit, on galège, on appelle ça la galéjade, c'est faire des jeux de mots à deux balles, tu vois. Surtout sur n'importe quoi, tout le temps, juste pour se péter la gueule, tu vois, Voilà, donc ça venait de là, le goût des rimes, ça venait que depuis tout petit, on aimait bien jouer avec les mots, se moquer, faire des redondances, je dirais pas des mots plus techniques que ça, mais enfin voilà quoi, on s'amusait bien déjà.
Donc on pourrait presque dire que le marseillais ou la langue marseillaise est quelque part slamée, slameuse.
Ben, elle mène à ça, parce que, parce que si tu te rends compte que des sonorités, les sonorités, c'est magique, en fin de compte, quoi. Lose en anglais, c'est perdre, mais en marocain, c'est une amende. C'est une amende que tu peux croquer, tu vois. Et donc, la magie, elle est tout le temps, elle est dans la sonorité, ouais, il y a une magie, il y a une grosse base de données que tu acquiers.
Est-ce que tu peux préciser, est-ce que tu pourrais me donner une définition du slam, si on pouvait en donner une?
Ouais, je dirais que le slam, c'est le cœur des hommes en parole, voilà. Le cœur des hommes en parole. Et ça, de nos jours, c'est rarement donné, quoi. On parle, on se sert de la parole pour communiquer, pour fleurir les instants de chaque journée, le truc conventionnel, quoi. Tu vois, la parole, bonjour, ça va, les enfants, la famille, les vacances, la retraite, c'est pour quand. Voilà, tu vois. Et rarement on parle de soi, et le slam, il permet ça. Rarement on parle de soi dans la vie de tous les jours. Et le slam, dans le slam, tu vois le cœur des hommes, quoi. Tu vois le cœur des hommes, le cœur des femmes, tu vois des profondeurs qu'on se dit plus dans la vie quotidienne, en fin de compte. Il y a cette...
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'expression de l'intime?
Ah oui. Ah oui, quelque part, pas dans l'absolu, mais quelque part, oui, bien, bien. Oui.
Ou le cœur, les émotions?
Les émotions, énormément, les émotions, oui. Les émotions. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de thérapeutique à double sens. C'est thérapeutique, je pense, pour celui qui le pratique, parce que ça lui permet de peut-être d'évacuer des émotions ou de les partager, voilà. Et ça peut être aussi thérapeutique pour celui qui les reçoit, parce que ça peut aussi lui permettre de vibrer d'une certaine façon ou de se remettre en question par rapport à une émotion, parce que bon, voilà, les émotions, elles parlent d'elles-mêmes à tous les hommes. Et ouais, voilà. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois.
Comment travailles-tu? Comment écris-tu?
Je suis pas du tout discipliné, sauf peut-être pour ce qui est d'apprendre un texte, puisque je le déclame. Là, je me discipline un peu plus et c'est carré, voilà, je sais faire ça. Mais pour écrire, c'est autre chose. Pour écrire, c'est plus basé sur sur une émotion. C'est au plus près d'une émotion. Voilà, j'ai compris très tôt que je suis plus fort à coucher des mots si je les couche plus près de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, cette émotion-là. Je suis plus prompt à écrire un texte, voilà. Sur une émotion à l'instinct comme ça que sur une commande ou sur un thème donné quoi.
Et tu travailles à n'importe quel moment de la journée, ça peut être au petit matin, ça peut être le soir. Est-ce que tu as une heure de prédilection pour travailler?
Non, mes émotions n'ont pas d'heure, figure-toi. Et puis non, j'ai pas développé aucune discipline quoi. Voilà, je peux rester 6 mois, un an sans écrire un seul texte, mais je griffonne quand même. Je vais griffonner une ligne ou deux par-ci par-là. Donc j'accumule sur plein de brouillons des idées, des métaphores, juste une phrase ou deux, rien de plus. Et je les accumule et bien souvent, quand je revois toutes ces notes-là, je me dis waouh. Il faut que je les anime. Il faut que je les. Tu vois? Que je fais une sorte de. Tu te retrouves face à des pages magiques, en fin de compte. Et il te vient plein d'idées, quoi. Parce que c'était quand même des phrases que j'avais notées qui étaient fait vibrer, tu vois, l'instant d'une pensée futile, et tu l'as notée, puis c'est tout, quoi, tu vois. Puis après, ça peut recréer quelque chose, ça peut regermer, voilà, quelques temps plus tard. Donc j'ai des feuilles de partout, en fin de compte, plein de brouillons, des trucs.
Et tu passes ensuite à une certaine forme de synthèse.
Ouais, c'est le mot, je sais pas si me convient bien. Mais oui, mais quelque part, j'aime bien cette approche-là, parce que je trouve ça bien d'être concis dans ce qu'on a envie de dire. De pas s'étaler sur 3 milliards de kilomètres de palabres, d'essayer de faire bien avec peu, quoi. Donc le choix des mots est très important.
Le choix des mots, j'ai pu noter en t'écoutant qu'il y avait beaucoup de jeux de mots. Est-ce que c'est une caractéristique au sens propre, comme au sens figuré du slam? Ou est-ce que ça t'appartient à toi de travailler les jeux de mots?
Non, c'est très 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 répandu, je pense. C'est très répandu, c'est très cousin le jeu de mots de la rime, je trouve aussi, tu vois, limite. Mais ouais, c'est très répandu les jeux de mots, puis moi j'aime bien les doubles sonorités, où j'aime bien des fois qu'un mot puisse se diviser en deux et donner plusieurs mots et marquer, mettre l'accent là-dessus, parce que ça tombe dans le propos que le mot, tu peux le diviser, et donc quelque part ça a un sens. Et ouais, je me suis beaucoup intéressé à la fameuse langue des oiseaux, qui justement a une double entente. L'alchimiste faisait ça pour se protéger, donc il délivrait des messages écrits codés en langue des oiseaux, où la double sonorité des mots avait une importance primordiale, et il faisait passer des messages comme ça, voilà, en utilisant plusieurs messages dans le mot, si tu sais le relire, si tu sais le disséquer. C'est presque une sorte de dissection, en fin de compte, quand tu sépares les mots, quand tu les... il y a presque un truc chirurgical, tu vois. Ouais. Moi, à tel point, j'ai développé une... je sais pas si c'est une maladie, mais souvent quand je suis en conversation avec les gens, au fur et à mesure que la discussion a lieu, mais j'entends une multitude de jeux de mots venant de la parole de l'autre. Il ne le sait pas, mais moi, je les entends tous. Je les entends tous, en fin de compte. Tu vois, donc il y a une double écoute comme ça, en permanence. C'est un truc de fou. Ouais, ça ne m'empêche pas quand même d'être à l'écoute, mais c'est un peu perturbant, quoi, tu vois. Donc il y a cette idée-là, tu vois, des mots de chirurgical, tu vois. Tu peux les couper.
Ouais. C'est une sorte de travail d'étymologie.
Très important l'étymologie, mais très important. C'est le nerf de la guerre, c'est le caviar. Voilà, l'étymologie. On est tous très embêtés avec ça, parce que bon, on utilise les mots sans réellement, dans leur grande majorité, savoir, à moins d'être un linguiste ou un, tu vois, ou un lettré, dans ce cas-là peut-être, mais sinon au niveau de l'étymologie, mais on est à milieu des fois de l'utilisation des mots. Bon, le plus bel exemple, le plus probant, c'est tripalium, que travail viendrait de tripalium, qui était un outil de torture, quoi, les fameux trois pieux. Voilà. Donc quand même, c'est magique. Là, juste pour cet exemple-là, il est très, 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 très parlant. Parce que, bon, il te fait réfléchir sur beaucoup de choses, du coup, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que d'écrire, c'est magique?
Ah bah, carrément. Ah bah, carrément.
Comment tu pourrais définir cette magie?
C'est quand tu arrives à accoucher, c'est une libération, parce que tu as réussi à te libérer d'une... Ben, de pensées qui, quelque part, elles étaient là, tu vois, elles trottaient dans ta tête tout le temps. Tu savais que tu devais en parler de cette pensée-là. Tu savais que tu devais la raconter, cette pensée-là. Et tu as fini par réussir à l'habiller correctement pour pouvoir la partager, la raconter. Voilà.
Est-ce qu'en écrivant, avant même d'écrire, tu sais quel va être le résultat de ce que tu souhaites écrire, ou c'est justement par l'acte d'écrire que tout d'un coup quelque chose fait sens, donne une cohérence, et là tu es surpris, comme si effectivement c'était un acte magique?
Ah, c'est intéressant ça comme question. Mais c'est vrai qu'il y a deux styles d'écriture. Il y a l'écriture pratiquement automatique, c'est celle qui est couplée le plus à des émotions fortes, où là... J'écris beaucoup de textes comme ça, d'un trait. Et je les ai pratiquement pas retouchés, parce que c'était... J'étais juste là où je devais être par rapport à mon émotion. Je voulais la dépeindre, et voilà, et j'ai réussi. Donc il y a les textes comme ça, et puis il y a les textes tu connais ton idée, bien sûr, de départ. Tu connais ton idée de départ, et puis tu fais des découvertes en chemin. Tu fais tes découvertes en chemin, c'est moins rapide peut-être, tu vois. Mais tu découvres d'autres profondeurs au fur et à mesure que tu écris ton texte, tu vois. Qui vont peut-être te faire dévier un petit peu peut-être de ton idée du départ. Mais voilà, il y a une magie aussi de chaque fois, c'est pas pareil. Hein. Voilà, c'est ça.
Quels sont tes thèmes de prédilection? Qu'est-ce qui t'inspire?
Ouais, ils sont nombreux, mes textes de prédilection, ils sont nombreux. C'est le contemporain, c'est le maintenant, c'est la spiritualité, c'est la nature, c'est la géopolitique dans tout son ensemble. Voilà, la géopolitique mondiale. Voilà, les échanges et les flux, les courants de pensée. Voilà, les avenirs à court terme hautement prévisibles, etc. Ouais, voilà, donc c'est le maintenant. Ouais, c'est le maintenant, c'est le contemporain. Et puis après, j'aime bien aborder tous les thèmes en fin de compte. Il n'y a pas de thème qui me rebute, quoi.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de thème sur lequel tu viens et reviens et que tu retravailles, peut-être?
Un exemple de... Il faudrait peut-être que je partage un texte, c'est possible?
C'est ça? Pourquoi pas? Ouais. Maintenant, tu pourrais partager un texte avec grand plaisir.
Voilà, pour parler justement du thème autour des mots, de la puissance et de la magie de la parole, au-delà de l'entendable et de ce qu'on en a compris. Et voilà, des mots pour rien, des mots qui tuent et des silences trop souvent ignorés. Voilà le merveilleux monde des mots pour rien et du silence.
Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Thank you.
J'ai pas été beaucoup à l'école, mais j'ai ma thèse sur le doctorat, brisée par les foutaises du prolétariat. Ne me traite pas de conspirationniste. Je ne veux pas être un produit de ton consumérisme. Pas besoin d'étiquette, ni de code-barre. Gère dans les méandres obscurs, hantés de notre humanité déprogrammée, déconnectée, obsolète. L'instinct en bandoulière, la vérité dans le moteur de recherche. Je me cogne sans cesse aux parois étroites de nos certitudes. J'ébrèche à peine les murs armés de nos convictions scolaires. J'ai bouffé bien des grimoires et digéré tant de bobards. Je révise l'histoire de la révolution des Cro-Magnon frères. Regarde et lis là entre les lignes, intercepte et traduis tous les blancs silences à la lumière de ton humble crédulité. Brûle nos livres jaunis pour éclairer nos ânes de la froide noirceur, de la cupidité des mots. Combien de mots ont enfanté, combien de morts nés, combien de mots nés pour assassiner, combien de métaphores avariées ont engendré de luttes intestines. Comment le souffle des mots attise-t-il le feu inaudible qui nous dévore? Écoute le silence, papa. Nos pensées sont des graines dématérialisées qui voguent au vent, des cris aveugles aux oreilles muettes, d'imperceptibles caresses. Nos pensées sont des armes, l'engrais du futur. J'invoque l'abstinence de la prononciation de quoi que ce soit, de tout. Je m'en remets à la jouissance de la lecture des sourires. Ça, c'est bon. Je feuillette la poésie volage des éclats de rire. Il faut réapprendre à se taire, désapprendre à déblatérer, revenir au début du verbe. La langue du silence se dit avec le cœur. Nul besoin de grammaire. Elle s'exprime par tous les temps, s'accorde avec la mer. Le silence est d'ores et déjà, il me parle, me raconte ce qu'il veut. Le silence se goûte par le corps à l'ombre du bordel. Il se respire par la peau, s'apprécie à la valeur des non-dits. La magie des regards se rencontre les yeux fermés. L'éloquence des nobles intentions s'entend au-delà des longues phrases. Tais-toi, cesse de me dire qui entendre et quoi comprendre. Laisse-moi mesurer le poids de tes silences, jauger la valeur de tes abstinences, bouquiner la prose de tes gestes, écouter la danse de tes cheveux. Le vocabulaire de la no-langue, c'est des mains tendues, des bras ouverts, des poings levés, des doigts en l'air. C'est des attitudes, mon petit, des coups de pied au cul sur des rides qui s'expriment. Ouvre les portes de ton cœur et condamne les fenêtres de ta communication 2.0. De grâce, laisse la paix naître de ta bouche close pour purifier l'air de la puanteur des maudits. Je pars serein pour un combat silencieux. Je rends la parole au vol des oiseaux, à la conjugaison des fleurs, la mélodie des vagues qui parlent au soleil. Je suis et resterai le sage complètement idiot qui questionne et analyse le doigt qui montre la lune.
Je sens que tu vis ton texte. Je te vois, personne ne nous voit là, mais tu vis ton texte.
C'est exactement ça.
Physiquement, corporellement.
C'est exactement ça.
Est-ce que c'est une particularité du slam, ça?
Ça devrait l'être. Selon moi, ça devrait être une particularité majeure. Ouais. De l'expression oratoire, publique, voilà, de raconter des choses. Ouais, être au plus près de ce qu'on est, quoi, le plus aligné de ton émotion. Donc oui, chaque fois, tu as le plaisir de revivre le même truc que tu as fait il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Tu le revis avec une intensité chaque fois renouvelée, parce que ça dépendra toujours de l'instant, du lieu, de la vibration, des gens, des regards, des parfums, de l'air du temps, du moment. Donc chaque fois, c'est... C'est un renouvellement, tu le vis différemment et tu le partages différemment. Mais oui, c'est bien de le revivre. Moi, je trouve que c'est quand tu es au plus près de tes émotions que tu es le plus juste, peut-être. Je sais pas. Tu vois ?
Et que ça te traverse physiquement et que tu l'exprimes physiquement, presque comme si tu étais sur une scène de théâtre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une frontière poreuse entre l'expression théâtrale et le slam, ou l'expression oratoire, comme tu dis ?
Ouais, c'est très proche. Mais bon, voilà, le théâtre, c'est, tu joues pas ton rôle, quoi. Voilà. Je vis ce que je suis et voilà, et je le vis à chaque fois que je m'exprime, et j'essaie de partager comme ça vraiment qui je suis, tu vois. Voilà.
Est-ce que tu as des références, des mentors ?
Il y a un monsieur qui m'a marqué au fer rouge à blanc. C'est monsieur Léo Ferré. Voilà. C'est monsieur Léo Ferré. Alors, je connaissais pas Léo Ferré jusqu'à mes 50 ans, on va dire. Jusqu'à mes 50 ans. Et c'est une amie qui m'a dit: tu connais Léo Ferré? Moi, Léo Ferré, peut-être un texte, mais tu vois, et pas celui-là qui m'a bouleversé, quoi. Donc, un texte peut-être de Léo Ferré, quoi. Et ouais. Je savais à quoi il ressemblait, le gars, tu vois. Et quand j'ai écouté, donc, parce que la fille a vraiment insisté, m'a dit: c'est très intéressant, ça te plairait beaucoup. Et je me suis retrouvé subjugué par plein de choses. Je me suis retrouvé comme dans un univers de métaphores, un univers métaphorique fascinant. Ça m'a bouleversé. Je savais plus si je pourrais continuer à écrire après avoir entendu ça, tu vois. Beaucoup aimé ce texte, c'est Il n'y a plus rien de Léo Ferré. Et en l'occurrence, ça m'a beaucoup plu parce qu'il a une version longue, 16 minutes, il n'y a plus rien, et c'est un slam de 16 minutes, quoi. C'est à peine accompagné par deux grappes de clavier c'est très pur, et là il y a tout, quoi. Et là il y a ce scénique, cette expression et vibratoire, tu vois que le gars, il est en train de vivre ce qu'il raconte, tu vois. Et il écrit pas là, et il raconte pas la chanson d'un autre, quoi, tu vois. Et ça, tu le retrouves, tu vois, chez cet homme-là. Et aussi un univers des métaphores que je trouve fascinant. Et puis voilà, puis un petit côté révolutionnaire.
Je voulais savoir, il me semblait, mais peut-être que je me trompe, que les slameurs souhaitaient revendiquer certaines choses, certaines valeurs qui leur tenaient à cœur.
Ok.
Des combats aussi.
Oui, énormément. Hein. De toute façon, c'est l'essence même, je pense, de l'écriture, de la poésie et du déclamatoire. Donc beaucoup de personnes écrivent dans cette vibration-là, c'est-à-dire voilà, très revendicative ou très sincère par rapport à des émotions. Mais je trouve que dans ce monde de la poésie, moi, c'est mon appréciation, peu de poètes, de poétesses prennent le flambeau d'une forme de résistance humaine qui est très chère à la poésie depuis des siècles et des siècles. Tous les poètes se sont levés contre les tyrans, contre les abus. Ils ont dévoilé, ils ont eu une part prenante dans les grands combats de l'humanité, de la poésie. Et ça, je trouve que ça manque profondément dans le climat, et que par récupération, parce que c'était cool de pouvoir poser un texte et de déclamer en public, beaucoup de gens s'en servent pour faire de la rime, quoi. Voilà, pour faire des quatrains, de la rime, et c'est un peu méchant ce que je dis. Mais parce que c'est déjà noble l'intention de partager, mais je veux dire, c'est devenu un petit jeu un petit peu académique, beaucoup de gens se sont engouffrés là-dedans, quoi. Voilà. Mais oui, on trouve quand même des gens merveilleusement alignés, quoi. Alignés. En phase avec eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a plusieurs écoles dans le milieu du slam ?
C'est marrant que tu parles de ça, parce que moi j'ai vécu le slam d'une façon un petit peu particulière, parce que dans le paysage du slam français, s'est installée la fameuse règle qui est venue des USA, de Mark Smith, l'inventeur du slam, c'est Chicago je crois, qui faisait ça dans les bistrots, tout ça, et c'est un art oratoire qui a été importé, parce que c'est venu après, 20-30 ans après, en France. Et donc, ces règles-là, déclamatrices et oratoires, elles sont très contraignantes, très contraignantes, et moi, j'ai lutté contre ça à ma façon, quoi. Parce qu'elles te disent 3 minutes, bon d'accord, il faut respecter un temps de parole. On te dit 3 minutes, tu as un chronomètre, si tu dépasses de 10 secondes, on t'enlève 0,5 points. Il y a 5 jurés pris au hasard ou dans l'assemblée. On va mettre des notes, donc des notes de 1 à 10. Voilà, donc dans leur histoire, quand il y avait une soirée poésie, tu te retrouves avec un vainqueur et 29. et 29. Vaincu, tu vois, 29 vaincus. Déjà, je trouvais ça bizarre. Puis j'ai vu des gens pleurer, tu sais, dans mon parcours poésie slam, j'ai vu des gens pleurer, des filles ou des garçons pleurer, parce que c'était leur premier slam, leur première prouesse de pouvoir s'exprimer devant des gens, tu vois, et de donner quelque chose, et qui ont été jugés par des juges, c'est des lambda, ils étaient là pour s'amuser, pour se distraire, et ils ont mis des notes très, très, très. Parce que ça tremblait ou parce que l'écriture était peut-être un petit peu un peu puérile ou que sais-je, tu vois. Et j'ai vu des gens chialer de la note des juges, tu vois. Donc je suis complètement anti ça, en fin de compte, tu vois, anti le cadrer, tu vois, y mettre des barrières, le juger, noter. C'est des trucs qui me dépassent un petit peu. Donc ouais, je suis plus pour une liberté consciente du temps d'expression, tu vois. Chacun fait comme ce qu'il, chacun dit ce qu'il a à dire, tu vois. Chacun dit ce qu'il a à dire et on note personne, on juge pas, mais on discute après si on peut.
Oui, parce que il faut rappeler peut-être la tradition du slam, c'est de l'ordre du concours. Il y a même des championnats de France. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ces règles, d'une part, que toi tu préfères détourner, et de ces championnats de France, voire même d'Europe?
Non, je préfère pas les détourner, je veux dire, les règles. Je veux dire, bon, je fais avec, je dis juste qu'on pourrait faire mieux que de se foutre des notes, tout ça. Ben, après, par obligation, si tu voulais t'exprimer, ben, tu étais obligé de parcourir toutes les scènes notées avec des jurys, les concours, tout ça. Tu étais obligé de le faire, je veux dire, quand même. Donc, tu les acceptes quand même, les règles, tu vois. Moi, je les ai acceptées, les règles, mais... Je trouve ça dommage, je trouve qu'on pourrait faire mieux et moins foutre de bâtons dans les roues du slam, quoi, tu vois, c'est-à-dire pour inciter les gens à, voilà, s'exprimer plus librement, avec moins de crainte d'être jugé, d'être perdant ou gagnant, voilà. Après, oui, je me souviens en 2010 être monté à Bobigny pour le grand slam national qui est organisé par Pilote Le Hot et... J'avais la joie d'être entouré de plein de poètes que je connaissais, de plein de villes différentes, et tout se retrouver, de faire le truc, mais c'est une machine de guerre, le truc, quoi. Ça déshumanise complètement la poésie, tu vois. Amphithéâtre immense, projection, écran de cinéma, chaque slam, il est traduit en 3 ou 4 langues différentes en même temps. Si tu te retrouves là, tu es perdu, puisqu'il y avait des slams étrangers aussi, hein, puisque c'était le grand slam... national, et ils faisaient aussi de l'international, tu vois. Ils avaient une partie internationale. Ouais, puis après, bon, donc là, j'ai pu rencontrer les pointures du slam, quoi, de cet art-là, tu vois. Ils étaient tous là-bas, tu vois, c'est le grand slam, c'est la Mecque du slam, tu vois. Et là, j'ai vu un jeu d'ego qui m'a perturbé, mais un truc qui m'a bouleversé dans mon parcours de l'art déclamatoire, tu vois, ou de la... ou des concours, ou des, tu vois, ou de cette idée-là d'être le meilleur, tu vois, de à quoi on ressemble quand on est dans cette dynamique-là. Moi, c'est un truc qui m'a fait... c'était un combat de ma vie, quoi. C'était un combat de ma life. Tu vois, un truc de fou.
Quand quand tu dis déshumanisé, tu penses que finalement le slam est fait pour être dit en petit comité, dans des petites salles?
Non, pas forcément, hein. Non, non. Non, non, c'est pas incompatible avec, avec une audience étendue, quoi, non. Non, 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 c'est bien, mais non, déshumanisé, parce que voilà, ils l'ont mis en boîte, qu'ils l'ont fait rentrer dans une case, voilà, c'est tout. Pour moi, le slam, c'est précieux, c'est ça, moi, slam, je pense griot de suite. Je pense ménestrel, je pense troubadour, je pense à cet art libre, tu vois, et merveilleux, aller de place en place, tu vois, pour raconter des histoires d'ici aux gens de là-bas, tu vois. Ce genre de truc-là, quoi, c'est intemporel, ça, tu vois. Ça se fout pas en cage, quoi, tu vois, je veux dire. Je mets pas ça en cage. Ouais, bon, après je suis. C'est un petit peu dans mes idées de vie, je freine un petit peu sur tout ce qui est progrès, tu vois. Des choses comme ça, tu vois. On veut tout enfermer, on veut tout maîtriser, on veut tout.
Et est-ce que tu es amené toi-même à aller de place en place, de ville en ville, et de scène de slam en scène de slam? Je sais qu'il y en a à Aubagne, par exemple, à Marseille. Est-ce que le fait de perpétuer cette, ou de remettre au goût du jour cette tradition du troubadour en tant que slameur, c'est quelque chose que tu fais?
C'est quelque chose que je vis, tu vois. Avant de le faire, bah, je le vis, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que j'aurai l'occasion de partager un texte, bah, je le ferai, tu vois, dans toutes les configurations. Je l'ai fait dans la colline, seul dans la colline, je croise deux promeneurs, on se dit bonjour, c'est magnifique, on se dit quoi, et puis voilà, je me propose de partager souvent comme ça. Un abribus, pourquoi pas, tu vois, à quelqu'un. Psst, ça te brancherait d'écouter de la poésie, comme ça, là, avant qu'il arrive le tram. La vie est un bouquet de violettes. Ouais, c'est ça. La vie est une lutte incessante. Elle n'a pour armistice que les délices de l'instant. Chaque sourire est une victoire. L'air du temps est pollué et m'a populaire. L'air du temps m'a gonflé comme un ballon fou qui s'échappe des mains de l'enfant sans gravité un jour de foire bruyante. Je me défonce à l'horloge. Mon cœur est une montre déconnectée. Les aiguilles ne me piquent pas le temps qui m'est accordé. Je trafique la pendule. J'étire les secondes, contracte les heures. Je ressuscite les temps morts, compile les années. Le ciel est un théâtre, les oiseaux, les animateurs de mes pensées étoilées. Mes nuits ensoleillées déchiffrent tous vos nuages sauvegardés. Je suis le geôlier de mon calendrier, je libère les mois pour bonne conduite en état d'ébriété. Sur la plage du temps, je suis le garde des sceaux et surveille si le sablier, ministre de leurs sinistres injustices, je fustige tous les galets polis, façonnés par le vague et les courants de pensée. Je conjure mes verbes à des temps interdits, comme au plus qu'imparfait de nos passés décomposés, et je participe, présent, aux impératifs conditionnés à tes désirs les plus flous. Nécrophage des langues mortes, des langues de bois, des langues de pute, je laboure pêle-mêle le bécherel, je déterre ma grammaire, mon futur postérieur aura les yeux bleus. Chienne de vie, tu as régné sur mon cœur, empêtré dans la toile de tes cheveux, j'ai coulé à cœur, balancé dans le port, muselé par ta laisse, et j'ai refait surface, poussé par l'archimède, je flotte comme une bouteille à la mer. Ma vie est un rafiot à la dérive, sans gouverne et sans voilure, un putain de radeau tracté par vos méduses. Naufragé de l'amour, je me déleste de ma servitude et de mes certitudes pour rester à flot. Je balance par-dessus bord la lourde cargaison de mes remords. Je largue les amarres, jette l'ancre sur des pages détrempées par vos mots. Le large me prend, Le vent m'enlève, porté par El Niño. Je parcours l'océan de mes pensées de minot. Sucé par le ressac, j'embarque dans mon sac étanche à vos réquisitoires un stylo bic pour écrire des pamphlets, un rasoir bic pour tondre tous ces enfoirés, un briquet bic pour foutre le feu à nos pensées. Je suis barré à sec dans la tempête, comme un voilier enfloué, je tangue, gîte, cogite, soumis aux éléments, affranchi des aliments. Et je digère vos salades en buvant vos paroles. Je bouffe des poissons d'avril, j'avale toutes vos couleuvres et parfois, ouais, je croque dans la pomme. Je suis à l'ouest et je ferais bien de lâcher du lest. Je me suis envolé, emporté par le mistral, comme un sac plastique biopérissable, évadé d'une poubelle. J'ai pris de l'altitude vers d'autres attitudes. Je cloporte la nouvelle. Ce monde est tordu et ses angles cruels. Et je vois dans vos yeux ces putains de poutrelles de bonheur. Je kiffe tous vos sourires, ces munitions fertiles crachées par vos bouches, ces douces fleurs que vos lèvres cultivent, ces pierres précieuses, joyaux de vos profondeurs, ces antidotes aux larmes et à toutes mes douleurs. Dans la salle défaite de la sainte victoire de vos sourires, je jouis du délice des instants fragiles. Mais ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, ce genre de truc comme ça. Ouais, non, il n'y a pas de cadre, mais oui, ouais, de place en place, ouais, d'occasion en occasion, de rencontre en rencontre, de sollicitation en sollicitation, tu vois. Mais quelque chose de très naturel, tu vois. Pas sur les réseaux, et puis parce que je peux pas, et parce que c'est un combat, tu vois, donc je suis. Donc, ouais. Mais j'y vais quand même, hein. J'y vais, tu vois. Si l'occasion. Dès qu'à l'occasion qu'il y a une petite scène, ouais, c'est presque devenu naturel, quoi. Tu vois?
Est-ce que, justement, le fait de croiser quelqu'un à un arrêt de bus ou à un arrêt de tram, tu déclames tout d'un coup un slam, si j'ai bien compris? Le choix du slam va être le reflet de ce que la personne te renvoie?
Oui, je pense, oui. Oui, oui, il y a une lecture de l'autre, de toute façon. Il y a une lecture de l'autre en permanence. En permanence. On se lit les uns les autres, on dit tant de choses avec nos enveloppes. Il y a tant de messages. Oui, donc forcément, oui, je pense, oui. Ouais, ou de l'âge, ou de... Tu vois?
Est-ce que... Tu pourrais nous dire quelque chose de ce que représente pour toi l'acte d'écrire ou l'acte de proclamer, l'acte de slammer?
Ouais.
Est-ce que c'est par exemple un acte presque politique?
Ouais, c'est... C'est une symbiose de plusieurs... Ouais, c'est politique, c'est curatif ou thérapeutique, tu vois. Voilà, je me soigne chaque fois. Chaque fois, je me fais du bien parce que j'évacue un truc. Et puis c'est créatif aussi parce que ce sont des graines que tu sèmes. On ne se rend pas compte à quel point, des fois, une simple phrase, elle peut rester gravée dans le cerveau de l'être humain de très nombreuses années et puis fleurir un beau jour, tu vois, rejaillir comme ça des profondeurs du temps. Tu sèmes des choses, tu sèmes des graines, quoi, quelque part. Les messages, et on dit les écrits restent et les paroles s'envolent, mais s'envolent où? Elles s'envolent où?
Est-ce que n'importe qui peut slammer le texte d'un autre, par exemple? Est-ce que c'est possible de déclamer le texte d'un autre slameur, ou bien le slam doit être dit par la personne qui l'a écrit?
C'est très particulier, quoi, d'endosser le costume d'un autre, quoi. parce que si son costume il a été fait par un bon couturier, tu vois, qu'il est de haute, de belle facture, il va pas forcément t'aller comme un gant, tu vois, je veux dire, et, non, c'est pas facile, c'est un... ouais, c'est un exercice, certes, mais... Non, c'est pas si évident que ça. Puis certains slams aussi, ils appartiennent vraiment à la personne et leur façon de le dire, je pense qu'elle elle sursigne, tu vois. Elle est même peut-être indissociable de l'écrit. La façon de le dire de la personne, c'est pas dissociable de son écriture. Ça va ensemble, en fin de compte, tu vois. C'est presque un texte qui a presque été écrit pour certains pour être déclamé, quoi. Tu vois. Moi, je les ai souffert dans ma tête. Mais parfois de belles souffrances, parce que c'est juste parfois des questions philosophiques que tu n'arrives pas à résoudre dans ton esprit, tu vois. Juste ça, et parfois c'est des souffrances réelles dues à des émotions, à des émotions que tu ne peux pas gérer, tu vois. C'est...
Merci, je voulais juste savoir si tu... Tu étais amené à écrire autre chose que du slam. Est-ce que tu avais déjà écrit des romans ou est-ce que tu y songeais, des nouvelles, une autre façon d'écrire?
Ouais, là, je raconte depuis 10 ans maintenant à peu près. Là, j'ai commencé à raconter Marseille, bon, ma vie, Marseille. Tous les souvenirs, autant au plus près de ce que mes souvenirs les plus infimes ils commencent, quoi. Mes premières bribes de souvenirs. Et voilà. Et donc, j'ai dépeint cette histoire-là de Marseille avec ma vision à moi, tu vois, 50 ans après, de pouvoir donner une analyse à ma couleur à moi, tu vois, de ce que j'ai vécu, tu vois, dans la cité, d'après-guerre, tu vois, le melting potisme, tout se mélanger, tu vois, tout ça. Plein d'aventures coursillantes.
Un récit autobiographique?
Ouais, j'aime pas trop le terme, parce qu'une fois de plus, voilà, c'est une case, c'est des choses qui me dérangent. Non, c'est juste dire... ouais, je dirais plus une peinture de Marseille, des lieux et d'une vie à Marseille, où il racontait de mon regard à moi, par rapport à mon vécu. Ça va être son autobiographie, c'est ça? Ouais, ouais, c'est une peinture de Marseille, je pense, plus que de moi, quoi, tu vois.
Une peinture de Marseille avec ton regard, à toi.
Ouais, ouais, et puis des personnages que, ouais, ethnographiques, topographiques, les lieux, tout ça. Je parle beaucoup de tout ça, tu vois.
Et ça donne quoi? Qu'est-ce que tu en souhaites en faire?
Ben, je souhaite avancer un petit peu plus dans... Parce que j'ai pas été très, très, très productif, tu vois. Progresser encore un petit peu plus dans l'âge avant de le clôturer. Donc, il faut que je continue à travailler dessus, quoi. Il faut que je continue... Ouais, il faut que je trouve une chute, quoi. Une petite chute. Donc, je m'arrête à un moment donné dans l'âge parce que ce serait tellement long de tout raconter. Donc, il va falloir que je m'arrête à un moment donné, tu vois, style... quand je pars de chez mes parents, tu vois, voilà. Quand je m'en vais de chez mes parents... Ça fera déjà une première histoire à raconter, tu vois. Après, il y a d'autres aventures, mais... Ouais, j'aime bien cette approche-là.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Oui, mais j'ai envie de rajouter que... J'invite le maximum de gens, d'auditeurs, à s'intéresser à l'art oratoire pour plein de raisons magiques. Voilà, d'ordre vibratoire, d'ordre se faire du bien aux autres et de se partager. C'est une expérience inouïe. Voilà, donc j'invite beaucoup de personnes à casser ces barrières et ces monstres-là de la timidité, du regard de l'autre, pour pouvoir enfin s'extérioriser et partager davantage, quoi. Se reconnecter d'une façon plus, tu vois, plus humaine, quoi.
Le slam en tant qu'aventure humaine, en tant que lien social?
Ben oui, carrément, carrément. Mais là, il faut considérer que ça fait 25 ans qu'on s'est fait... La parole, elle a perdu au détriment du numérique, quoi. Dès qu'il est arrivé Internet, les gens, ils ont passé beaucoup de communications sur leur clavier. Toutes ces communications, ben là, bon, mais ils les ont pas eu en réel, quoi. quelque part. Donc quelque part, il y a un manque à gagner en termes de communication, quoi. Et je pense que qu'il n'est pas petit, quoi, tu vois. Et donc je pense que oui, que se reparler, que de se redire des profondeurs de nous. Ouais, nous sommes des médicaments les uns pour les autres, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de il y a un truc de soin là-dedans, tu vois, très important, tu vois. Ouais. Parce que si je partage mes souffrances, je vais aller mieux, parce que quelque part je vais évacuer une partie de cette souffrance-là, donc je ne peux aller que mieux. Et je veux dire l'autre de l'accueillir aussi en face, l'auditeur, il se soigne aussi quelque part. Et il se fait aussi un soin à lui, parce qu'il devient de suite, il devient accueillant, il devient à l'écoute. Rien que ça, c'est aussi un soin qui me rend. Donc voilà. Et puis aussi, parce que ça lui fera du bien aussi à lui de peut-être d'aborder certaines émotions, de reconsidérer les siennes. C'est une forme de partage. On se soigne les uns les autres, quoi. Donc oui, il faut partager ses souffrances. Voilà. C'est ça.
Ben, merci beaucoup. Rien d'autre encore ?
Non, ça va. Il faut se réinitialiser, faire the great reset ourselves. Accordons nos vies au long des fausses notes, harmonise les sourires sur les accords Toltec, se sentir bien, loin des effluves commerciales. Partageons des festins de tapis de feuilles mortes, les volets à ciel ouvert sur les pellicules du soleil couchant, puis laisse le feu naître au réveil des fleurs enivrées de rosée, les portes défoncées par l'armée des pensées fraîches. Dérive, telle une esquife sans cap, sans coque, ivre de nos idées, tombées de nos falaises abruptes comme des bouts de craie. Écrire sur les ardoises de nos cœurs de nouveaux paradigmes, de nouvelles lois magiques. Condamne les jugements aux assises de ton âme, efface les rancœurs. Inventons des alphabets sans H, sans N, sans Q, sans ponctuation inutile. Un A, B, C d'air, d'O, de P. Restons les éternels écoliers aux 1000 mètres où l'apprenti sage est un éternel recommencement. Où les mots sont des remèdes, les sourires des soins et nos doigts des thérapies articulées, enchaînés à nos idéaux. Nos pieds écrivent des poèmes sur les sentiers de la liberté, brisant la glace du miroir aux alouettes où les loups phoques fondent comme neige au soleil, comme d'esquimaux sous la grande ours, l'esquisse banquise de nos cœurs dégivrés. Situé à l'ouest, va du nord au sud, et lâche le lest, le long des méridiens, guidé par le flux étoilé de nos sentiments éclairés, jette l'ancre aux équateurs brûlants de nos chakras alignés. Plongeons, jouissifs, dans les profondeurs abyssales de nos vibrations retrouvées. Créons, au crayon du soleil, de nouvelles histoires pour peindre les enfants aux couleurs de nous-mêmes. Débarrassons-nous de tous nos oripeaux, drapons-nous de notre humble unité. Déposons les armes tranchantes de nos savoirs, nos croyances erronées. Renonce à la conquête des vérités incertaines, obsolètes. Réattise le feu sacré des origines oubliées. Les oiseaux signent sur la toile du ciel de nos maisons des SOS d'espoir. Les escargots t'invitent à des voyages habités. Les étoiles de mer gravent des mantras sur les safrans des radeaux médusés. Digérons dans un repas partagé toutes les cloisons opaques qui nous brisent les ailes, les cases, les cellules, les barrières différentielles qui nous séparent. Soustrais-toi à la multiplication de tout ce qui divise. Invente des équations où les millions d'inconnus sont de doux facteurs distribuant des cartes sans frontières. Annule les parenthèses sous les nuages. Il faut qu'on sème des graines imaginaires que l'on récolte les fruits de nos chimères. Respire. N'aie plus peur. Gonfle ta voile. Barre-toi au large, que les vagues nous portent au-dessus de nous.
À l'écoute de cette voix, si chaude, si tendre, j'ai habillé pas à pas chaque doux méandre radiophonique et poétique de notes musicales qui sied au ton si calme d'un téminique qui parle. Envoûté par son charme, j'ai découpé avec doigté des fragments pertinents avec, j'espère, habileté à pousser en avant des mots qui ne mentent, saveur thé à la menthe, aux portes de l'Orient. Merci à Patrick Thubeau pour ses propositions musicales. Merci à Radio Galère.